Alors bonjour à tous, on attend encore un petit peu que tout le monde soit arrivé. Et puis donc je m'efforcerai puisque les questions elles vont m'arriver sur mon téléphone ici. Et donc j'essaierai autant que possible de toutes les passer si vraiment une question vous tient à cœur et si vous voyez que j'ai pas eu l'opportunité de la poser, alors voilà, levez la main et avancez-vous. Très bien. Merci beaucoup Alexis pour cette préparation. Merci à toute l'équipe. On va donc démarrer cette table ronde. La prise de conscience que nos paroisses doivent être davantage missionnaires augmente avec la raréfaction des prêtres et des pratiquants. Mais cette nécessité est-elle vraiment partagée? La paroisse doit-elle être d'abord un lieu communautaire, une oasis où on prend soin les uns des autres? Où doit-on construire la paroisse en pensant d'abord à ceux qui n'y sont pas ou qui n'y sont plus? Voilà ce dont nous allons échanger. Je ne sais pas si on apportera une réponse, mais en tout cas, on va y participer et essayer avec les intervenants d'y répondre. Père Simon d'Artigues, bonjour. Alors, vous avez tous vos micros ouverts. On est chez vous, ici. Merci de nous accueillir. Vous êtes depuis 8 ans le curé de quatre clochers du centre-ville de Toulouse, Saint-Aubin, Notre-Dame de la Dalbade, où nous sommes, Notre-Dame de la Dorade et puis la cathédrale Saint-Étienne. Vous avez un grand désir de transformation pastorale pour rejoindre chacune des brebis égarées. Et nous allons parler ensemble et vous direz quelles orientations pastorales vous jugez pertinentes, voilà, pour rendre les paroisses davantage missionnaires. Merci pour votre accueil, Père. Clara, bonjour. Clara Loriot-Prévost, vous êtes restauratrice de peinture, engagée dans Annuncio depuis 2008. Pour ceux qui ne connaissent pas Annuncio, ça sera l'occasion aussi de parler de ce mouvement qui porte beaucoup le congrès mission que nous vivons ce week-end, ici à Toulouse, mais aussi en France. Et on dit de vous que vous avez un cœur pour la mission. Voilà, un cœur pour la mission, jusqu'à en être réveillé la nuit. J'ai lu ça sur le site, je me suis dit, ouais, il faut absolument que vous nous racontiez ça, ça on veut tout savoir. Vous nous parlerez oui, de ce besoin essentiel de se mettre, se mettre au service de l'évangélisation en paroisse, et puis avec le développement des charismes de chacun. Ça sera passionnant de vous entendre, vous aussi. Et puis, Père Lionel Dalle, bonjour. Vous êtes vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon. Merci de prendre le temps d'être ici. Un vicaire général, on sait, c'est un agenda plutôt chargé. Donc, vraiment, merci d'être là. Vous, évidemment, alors vous connaissez la vie de paroisse. Vous avez été curé de paroisse pendant 11 ans. Et puis aujourd'hui, vous avez un regard un peu plus large, en tout cas sur le plan diocésain. Vous êtes en charge de... aussi, j'ai envie de dire aussi, parce que j'imagine que vous avez bien d'autres charges, mais de l'accompagnement missionnaire des paroisses et de la transformation pastorale dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Et puis vous nous en direz plus et puis partagez aussi vos expériences. Alors, vous savez, juste un petit mot avant de vous donner la parole. Je viens de Lourdes et donc je posais la question à un prêtre avant de venir. Je disais, vous savez, je vais animer cette table ronde, paroisse, oasis de lancement, base de lancement, pardon. Je lui livre la question et puis il me dit, pour moi, ni l'un ni l'autre. Il me dit, si les paroisses étaient des oasis, on le saurait. Et puis, si c'était des bases de lancement, ça se verrait. Bon. Et puis, ça, c'était juste pour rigoler. Et puis après, il s'est repris tout de suite. Il m'a dit, non, mais c'est vrai. Et puis, comme vous savez, c'est prêtre de Lourdes. Il m'a dit, non, mais c'est vrai que effectivement, les paroisses sont une oasis, on vient boire à la source, etc. Père Simon d'Artigues, je vous livre comme ça cette réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense que l'image de l'oasis... Elle est belle parce que, c'est un lieu en effet où on se ressource, mais l'oasis c'est un point dans un désert, et ça peut faire peut-être un premier écho parce que parfois certains d'entre nous, curés, laïcs, se disent que nos paroisses sont dans un désert chrétien, Si on imagine les choses de cette manière-là, alors c'est vrai qu'on se dit que l'Oasis est un bon lieu. Mais je me disais en entendant cet intitulé aussi que l'Oasis, c'est un lieu où on passe, enfin où les caravanes passent. Il y a quelques personnes qui vivent dans l'Oasis, mais assez peu. Et c'est un lieu où les caravanes passent et repartent. Donc je me dis qu'il n'y a pas tant de... Enfin, en tout cas, on peut comprendre l'Oasis aussi comme une base de passage, voire de lancement. Donc je vois dans l'Oasis quelque chose de... il peut y avoir un danger, c'est-à-dire de voir le monde comme un désert qu'on peut craindre, le lieu des scorpions, des serpents, où il ne faut surtout pas aller. Et ça peut habiter nos cœurs catholiques, de se dire le monde est dangereux, est mauvais, il n'y a que des païens dedans. Du coup, il faut des lieux, des oasis où on puisse se ressourcer. Mais on peut aussi voir l'oasis comme ce lieu de passage où les caravanes reprennent, font boire les bêtes, font se reposer les hommes, voilà, et continuent et repartent, voilà, pour porter ce qu'il y avait sur la caravane, quoi. Donc il y a une, à la fois dans le titre, il y a quelque chose d'ambivalent, mais qui est intéressant parce que ça permet de voir, me semble-t-il, différents aspects, des enjeux très très importants, me semble-t-il, pour la paroisse, voilà, qui est c'est le pape François qui disait ça, hein, dans la joie de l'évangile, qui est une réalité souple, ductile, qui peut se transformer, quoi. Donc elle n'est pas monolithique.
Père Lionel Dalle, une oasis, c'est aussi un lieu où on se désaltère une fois qu'on a traversé le désert. Cette oasis, cette paroisse, pour vous, c'est vraiment l'image qui va le mieux à la vie d'une paroisse?
En tout cas, ça fait partie de la mission paroissiale. Je pense au verset où Jésus appelle les 12 dans l'évangile de Marc. Il en choisit 12 pour être avec lui et les envoyer prêcher. Donc il y a vraiment être avec lui, être avec Jésus, se ressourcer, être enseigné et les envoyer prêcher. Après, ce qui est sûr, c'est que, comme vous l'avez bien montré, il y a une tension entre les deux. Peut-être on aurait envie de rester tout le temps avec Jésus, ou peut-être être envoyé prêcher, c'est quand même beaucoup plus flippant, non, générateur de peur. Par exemple, si on dit vous préférez passer une heure de table ronde ou une heure de mission, peut-être certains choisiront une heure de mission, mais une heure de table ronde, c'est tellement sympa, on écoute, voilà. Donc il y a toujours ce risque dans l'oasis, c'est qu'on n'a plus envie de repartir. Voilà. On s'installerait, on est avec Jésus, et puis on en oublie que si Jésus nous enseigne et nous forme, c'est pour aller porter cette bonne nouvelle. Que ça peut nous faire peur, mais qu'à un moment, c'est le moment d'y aller, quoi. Du coup, si on n'a pas ça dans l'ADN, on peut s'endormir. Voilà. C'est plus oasis, c'est canapé, comme dirait Pape François. Voilà.
Je vois, Clara, que vous hochez de la tête quand le père Lionel Dalle dit ça. C'est vrai, vous avez aussi cette vision-là de la paroisse? On a le droit de se contredire aussi. Hein.
Je suis entièrement d'accord avec le père Lionel. C'est dingue. Non, en vrai, évidemment, en fait, Jésus, pendant 3 ans, quelquefois, on oppose des choses qui ne sont pas opposables. Jésus, pendant 3 ans, il a pris soin de ses 12, pris soin des 72, et envoyé, et en même temps était dehors, etc. En fait, pourquoi est-ce qu'on oppose des trucs que Jésus lui-même n'a pas opposé? Enfin, en fait, dire, il y a nourrir et sortir, prier, oraison et mission. Marthe et Marie. Enfin, en fait, à un moment, on a 2000 ans d'histoire derrière nous qui nous montrent l'unité des deux et l'intelligence des deux comme deux poumons de l'Église. Voilà, donc de fait, nos paroisses sont à cette image du Christ. Sinon, si ce n'est pas l'image du Christ, ça ne va pas. Après, pour moi, dans la considération de l'oasis, c'est une chose qui me frustre énormément dans certaines paroisses et dans notre considération même de la paroisse. C'est pour qui elle est l'oasis? On a l'impression que c'est que pour nous. Mais une oasis dans le désert, très honnêtement, s'il n'y a qu'une partie de la population qui peut boire à l'eau de l'oasis, soit c'est de la privatisation des ressources, et c'est problématique, soit c'est un mirage, et que ce n'est pas vraiment de l'eau. Et donc du coup, les gens n'y viennent pas. Pour l'oasis paroissiale, pour moi, c'est la même chose. Une oasis, elle doit être faite pour tous, et tout le monde doit pouvoir accéder à l'eau potable. Tout le monde doit pouvoir accéder à cette ressource de vie. un des trucs une des questions qui m'a le plus transpercé dans la vie, c'est mon ancienne proprio avec lequel on a beaucoup parlé sur Dieu. Et je lui dis, bah voilà, après 20 ans, ça te dit de m'accompagner dimanche, on va aller à l'église. Et elle me dit, tu sais, l'église, on y va quand on a la réponse à toutes les questions. Moi, j'ai plus de questions que de réponses. Et ça m'a transpercé le cœur. Et je lui ai dit, mais s'il y a bien un lieu où on doit pouvoir se poser ces questions, échanger, chercher la vérité, ça doit bien être dans les paroisses et dans les églises. Et donc, en fait, on va aller chercher ensemble la vérité en échangeant avec d'autres, en réfléchissant. Ça doit être une oasis pour eux. Ou Renélia, ma banquière, qui me dit, en vrai, franchement, moi, je préfère ton canapé, parler de Dieu et chercher à partir de la Bible que d'être posé le cul sur un banc et rien comprendre à la messe le dimanche matin. Ben, en fait, ça, c'est pas normal. Et je lui ai dit, ben, en fait, on va pouvoir changer ça ensemble et faire en sorte qu'on vive vraiment une église où on cherche ensemble Dieu, où tu as ta place comme chercheur de Dieu, même si tu n'es pas encore baptisé, tu peux venir.
Ce que dit Clara, Père Simon d'Artigues, ces témoignages, c'est quand même, c'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que comment la paroisse, par ses propositions, par ses activités, peut rejoindre ces personnes qui sont en même temps en quête de sens, mais qui ne savent peut-être pas trop où trouver les choses, quoi.
Bah souvent, la paroisse, en fait, elle n'est pas bâtie pour ça, parce qu'on a une histoire qui fait qu'on a construit nos paroisses, nos pastorales, nos messes sur un monde chrétien. Les gens venaient au catéchisme, Florence, là, qui est catéchiste ici, elle me disait, en fait, il y a 25 ans, on est une école publique juste à côté, il y avait 50% des enfants de chaque classe qui venaient au catéchisme comme ça. Aujourd'hui, on a un par classe. Donc, c'est-à-dire que si on attend ici, comme on a toujours fait, en fait, parce que le catéchisme, c'était d'accueillir les enfants qui viennent à l'oasis, quoi. Mais en fait, ils ne sont pas loin, ils sont à 100 mètres. Hein. On les connaît, enfin, l'école, la directrice, elle est sympa, elle est accueillante, les instituts aussi, voilà. Mais en fait, si jamais on ne fait rien, en fait, on laisse mourir dans le désert, le désert pas loin, les enfants qui sont juste là. Donc, c'est-à-dire que nos églises, nos pastorales, elles n'ont pas beaucoup bougé. Et, comme dit Clara, elles sont bâties la plupart du temps pour ceux qui sont là. Mais ceux qui sont là, ben, ils se réduisent à peau de chagrin, bien souvent. Et le risque, c'est de se lamenter de n'être plus qu'un petit nombre. En disant, regardez comme on est peu nombreux à la messe. Au congrès mission, on est plus nombreux, donc ça nous chauffe, quoi. Ça nous chauffe le cœur, ça fait du bien. Mais le risque, c'est que on tombe dans une espèce d'abord de morosité, puis de désespérance, puis de mort. Alors on mourra dans l'oasis, avec peut-être encore un petit peu d'eau, parce que Jésus continuera à être célébré, mais il y en a qui mourront à côté de l'oasis. Et donc il y a un enjeu, l'enjeu missionnaire, en fait, il est premier, avant même celui de l'oasis, l'idée de la base de lancement, parce que la base de lancement, c'est celle de la mission, elle est première, en tout cas, dans l'intention des pasteurs, du pasteur que je suis. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre soin des fidèles, hein, ce que disait le père Lionel. Bien sûr qu'il faut être avec le Christ, mais dans notre intention de transformation pastorale, il s'agit de penser d'abord à ces 29 enfants qui ne sont pas là, plutôt qu'à celui qui est là. Parce que celui qui est là, il est là, on va en prendre soin. Voilà. Mais les 29 autres, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on fait pour nous les 100 mètres qui nous séparent de cette école ?
Et avant d'en venir aux actions effectivement concrètes, parce qu'il faut aller faire ces 100 mètres, vous avez raison. Sur le plan diocésain, la transformation pastorale des paroisses, c'est une préoccupation aujourd'hui. Peut-être un témoignage de votre diocèse.
Hein. Oui, je pense que c'est une préoccupation. Dans notre diocèse, c'en est une. Et de fait, c'est-à-dire on se pose la question à l'échelle de l'ensemble et de l'ensemble des paroisses, comment est-ce qu'on arrive à faire un peu cette révolution dont parlait Simon, qui est de se dire, c'est un espèce de décentrement, hein, au lieu de penser à nous en premier, l'Église existe pour évangéliser, donc c'est étonnant parce qu'elle a sa finalité à l'extérieur d'elle-même. Et donc comment est-ce qu'on va développer cette préoccupation de l'accueil des gens qui ne viennent pas, comment est-ce qu'on va modifier, transformer notre paroisse, puisqu'elle est elle est plastique et on peut en faire ce qu'on veut pour qu'elle s'adapte. Et donc, de fait, on le réfléchit à l'échelle d'un diocèse. Et aussi, comment est-ce qu'on va coopérer entre paroisses? Parce que parfois, il n'y a plus beaucoup de jeunes. Du coup, on a intérêt à faire un groupe qui soit commun. C'est difficile, je trouve. C'est difficile. J'ai parfois l'impression d'équipes de foot qui sont en rivalité, vous voyez, qui jouent l'une contre l'autre, alors qu'en fait, c'est la même équipe. Donc, c'est vraiment étonnant. Comme des clubs qui voudraient chacun gagner, mais aux dépens de l'autre. Alors que... en fait, la question n'est pas d'attraper les paroissiens de mon voisin, mais plutôt d'aller chercher des nouvelles personnes à l'extérieur. Alors ça, c'est plus difficile. Voilà. Mais c'est vrai que c'est tout un travail. Ouais.
Et en même temps, on peut imaginer que c'est un travail qui se fonde quand même sur une vision pastorale, sur une ligne, sur des orientations à tenir, parce qu'on a envie de lancer les fusées. Là, la base de lancement, on va en parler. Mais est-ce que d'abord, il n'est pas nécessaire d'avoir une vision? Clara, qu'est-ce que vous en pensez?
Avant de parler de la vision, je vais vous raconter une petite expérience. J'étais avec une paroisse... qui ne comprenait pas pourquoi il fallait sortir. Et j'avais animé plusieurs journées de travail dans cette paroisse et j'étais bloquée, quoi. Justement, il y avait vraiment ce truc de la rivalité, d'aller plutôt chercher les paroissiens d'à côté, d'avoir du nombre. Vraiment, c'était compliqué. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je te demande de me montrer où est le nœud. Et je suis tombée sur le texte de l'enfant prodigue. Et j'ai vraiment Jésus qui me disait, ils ne partagent pas le cœur du Père. En fait, ils n'ont aucune préoccupation de celui qui est dehors. Ils ne partagent pas cette attente. Fais-leur partager mon cœur et l'attente. Alors, je suis arrivée à la paroisse, j'ai dit, on va changer le programme de la journée. On va commencer par 20 minutes de prière et de lectio sur ce texte. Et en fait, on va attendre comme le Père, et je vous propose, on va partager pendant 10 minutes, et pendant 10 minutes, on va prier et on va attendre, et être là devant, devant la maison, et à se dire, mais je l'attends, je l'attends, je l'attends. À la fin des 20 minutes, j'avais vraiment une EAP, mais bouillante pour partir en mission. Ils étaient au taquet pour bosser, pour travailler la vision pastorale, pour aller, parce qu'en fait, ils avaient partagé le cœur de Dieu qui attend celui qui n'est pas là, qui aime celui qui n'est pas là. Et je leur avais demandé de visualiser des gens de leur entourage, maîtresse de l'école, voisin, boucher, voilà, coiffeuse, voilà, des gens qui ne sont pas là et qu'on aime, qu'on aurait envie vraiment d'avoir avec nous dans cette communauté, dans l'union avec le Seigneur. Et de les voir grandir avec le Seigneur. Et en fait, derrière, on a eu une journée de travail exceptionnelle. Et même dans cette vision paroissiale de se dire, de recomprendre pourquoi la paroisse existe. Elle existe pour évangéliser, elle existe pour nous aussi nous sanctifier et nous sanctifier, être configurés au Christ. Ça veut dire aussi avoir cette intimité avec le Père et cet envoi en mission pour aller et faire des disciples et engendrer vraiment des disciples pour le royaume. Et bien ça, c'était compris parce qu'on avait pris ce temps pour être configuré à l'amour de Jésus pour le monde. Je pense que c'est, pour moi, c'est vraiment aussi le point de départ même de la vision pastorale, partager le cœur de Dieu, vraiment de s'ajuster à son cœur.
Mais comme curé de paroisse, quand on sent comme ça ce que nous dit Clara, qui a une initiative, comment fait-on quand on est curé pour accompagner ces personnes? Parce que quelque part, il faudrait pas que ça parte non plus dans tous les sens, quoi. Est-ce qu'à un moment, il faut pas non plus soit cadrer les choses, ne pas trop freiner, encourager? C'est votre expérience, facile, pas facile?
Alors non, c'est pas facile. Parce que tout processus de transformation, ce qu'est la transformation pastorale, ça peut abîmer, ça peut blesser les personnes. Or, nous catholiques, comme curés de paroisse, on est héritiers aussi d'une histoire, on est héritiers d'un quartier, on est héritiers, voilà. Et donc, c'est une grâce profonde. Moi, cette église, c'est un sanctuaire où les femmes viennent se confier, viennent confier leurs enfants. Donc il y a quelque chose dont on hérite. On ne commence pas tout à nouveau frais. Et pourtant, moi, je sens bien, comme curé, que si on ne change pas les choses, si on ne revient pas à ce mandat missionnaire de Jésus, notre Église mourra. Lentement, tranquillement, en douceur, je veux dire, mais elle mourra. Et en fait, on est au service de la vie. C'est une certitude. Et le mandat de Jésus, il est bien, comme le disait Clara, hein, d'aller faire des disciples. Et la manière de le faire aujourd'hui, il y a quelque chose de le faire à nouveau frais. Et pourtant, en regardant comment Jésus a fait, comment est-ce qu'il a fait. Donc là, pour le coup, c'est un travail qui n'est pas le travail du curé, d'ailleurs. Moi, je vois bien dans ma paroisse combien c'est quelque chose qu'on vit avec l'ensemble des fidèles. Alors, bien sûr qu'il y en a qui sont plus chauds, comme disait Clara, et donc on commence avec cela, bien sûr. Mais comme Jésus a fait avec les 12, c'est-à-dire que souvent, et d'ailleurs c'est ceux qui sont un peu dans les structures, enfin moi l'EAP que j'ai transformé petit à petit, ben, c'est sûr que c'est des paroissiens qui sont chauds. Hein. Ils ont ce désir missionnaire au cœur, et ils vont m'aider à transformer qui la catéchèse, qui la pastorale du mariage, qui la pastorale du baptême, qui l'accueille dans les églises, l'accueil patrimonial, la liturgie. Et je ne peux pas dire que j'y suis arrivé, hein. Pas du tout. Vraiment, notre paroisse, elle n'est pas transformée, mais elle a petit à petit cette intention, en effet, d'être attentif à celui qui n'est pas là. Voilà. Je dis à ces 29 enfants. Mais c'est ce que disait le pape François, il avait une homélie sur la brebis perdue. Et il disait, je trouve ça très juste, il disait dans l'évangile, il y a une brebis perdue et 99 au bercail. Mais aujourd'hui, en fait, il y a un 99 perdu et une au bercail. Voilà. Bah, ça doit nous stimuler, ça, se dire qu'il y a ces 99 brebis qu'il faut attendre sur le pas de la porte, comme disait Clara, qui sont juste là. L'immeuble en face, l'école à 100 mètres, le commerçant du nez rouge à côté.
Et le pape, il dit sur cette image, comme on n'en a plus qu'une, au lieu d'être pasteur, on est coiffeur. Et on prend soin de la dernière, on la peigne et tout, on la chouchoute. Mais en fait, on n'est plus pasteur. Voilà, c'était ça. L'image est hyper parlante.
Voilà. Mais vous faites rire parce que c'est vrai. Gardez le micro parce que derrière, effectivement, cette transformation, vous avez raison de dire que c'est évidemment une collaboration entre tous, mais bon, il y a quand même un capitaine dans le navire, ce sont quand même les prêtres qui sont là. Est-ce que, et c'est parce que les questions me parviennent et donc je les porte en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de question d'une formation quand même particulière pour les prêtres ? Est-ce que c'est un service qui, de ce niveau-là, existe en diocèse aujourd'hui ?
On essaye. En tout cas, c'est un défi majeur parce que j'ai été invité pour parler aux nouveaux formateurs de séminaires en France. On a une règle qui s'appelle la ratio nationalis. Dans la ratio nationalis, on dit, chapitre 10, la mission et la finalité de toute la formation au séminaire. Après, franchement, le séminaire, il forme à quoi ? À donner les sacrements, à enseigner la foi. Et moi, je projetais les courbes et je disais, bientôt, il n'y aura plus de demande de mariage. Dans certains lieux, hein, carrément, dans des diocèses, enfin dans des grands espaces. Hein. Il restera peut-être des obsèques un peu plus longtemps, mais peut-être après les baptêmes vont diminuer. Il y aura peut-être plus de fidèles ou très peu. Du coup, on forme des gens dans une optique de l'ancien monde qui va disparaître. Et la difficulté, c'est que pour les former pour le nouveau monde, en fait, on n'a pas encore d'expérience, on n'a pas tellement de témoins de comment il faut faire. Et du coup, on doit se lancer sans trop savoir. Ce qui est sûr, c'est que notre ancien manière de faire, elle ne fonctionne plus, ou en partie, elle ne fonctionne plus. Voyez, elle va persister dans certains lieux, parce que tout ne change pas à la même vitesse. Mais donc, c'est quand même une transformation majeure, et je pense que chez les prêtres, certains ont une appétence à sortir plus forte. C'est-à-dire, ils ont ça dans leur cœur. Et certainement qu'il faut essayer de les mettre sur des ministères où ils sont plus en sortie. Et il y en a d'autres, ils vont se sentir nettement plus à l'aise à l'intérieur. On a besoin des deux. En fait, on a besoin des deux. Soit on arrive à se partager. Moi, une question qui m'effrayait, c'est combien de temps je passe avec les gens de l'intérieur, comme prêtre ? Combien de temps je passe avec les gens de l'extérieur ? Mais franchement, c'est 90%, 10%. Bon, parfois, c'est même plus élevé. Sachant que les laïcs, ils demandent beaucoup, non ? Vous avez toujours envie d'une nouvelle formation, de nouveau... Alors, comment dire non ? Comment oser dire non, vous voyez ? Et en même temps, si on ne fait que de l'enseignement interne, à un moment, il y a un problème. Donc, il y a vraiment un basculement à faire. Peut-être certains se sentent plus appelés à aller dehors. Du coup, on peut avoir des gens qui soient dans des ministères décalés. Peut-être aussi le fait que certaines paroisses sont vraiment vides aujourd'hui est une opportunité parce que, du coup, il n'y a plus beaucoup de demandes internes. C'est-à-dire que...
Vous êtes en train de dire que finalement, les catholiques demandent trop et occupent tout le temps disponible des prêtres, c'est ça que vous nous dites?
Ben, pour une part, oui. C'est dur à dire, hein, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas toujours envie d'une nouvelle formation pour apprendre plus? C'est bon, non? C'est bon. Mais en fait, il faut forcément qu'à un moment, on se dise... ok, enfin, beaucoup d'entre nous, on a beaucoup reçu, non? Eh bien, peut-être c'est le moment de donner. Du coup, c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Voilà.
Et est-ce que là, il ne faut pas aller peut-être chercher des ressources ailleurs? Je vois, on nous interpelle aussi sur les communautés aussi qui peuvent être là. Clara, vous nous avez dit avoir animé des journées, un peu coaching. Est-ce que ça, Clara, vous pensez que ça peut être aussi un bon moyen de pouvoir aussi se renouveler dans le message et puis pas toujours faire tout porter sur les épaules du prêtre?
Oui, il y a deux choses que je dirais. Une chose que je relèverais du Père Lionel quand même, c'est que les laïcs, pardon, mais on a quand même majoritairement tendance à se comporter comme des grands ados. Et donc toujours à avoir besoin de papa, maman, qui nous disent « Ah mais attends, c'est bien, comment je dois payer mon EDF ?» Enfin en fait, c'est bon, t'as 40 ans, arrête d'appeler papa, maman pour savoir comment tu payes ta facture d'EDF en fait. Enfin, et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. En fait, à un moment, il faut accepter d'entrer dans une maturité spirituelle, c'est-à-dire aussi une préoccupation pastorale de ceux qui ne sont pas là, et de se former pour. Se former pour, ça ne veut pas dire, encore une fois, demander la béquée. Ça ne veut pas dire demander encore une fois à nos prêtres de nous faire un parcours de formation pour devenir missionnaire. En fait, on peut le travailler ensemble. On peut travailler, on peut lire des bouquins, on peut se faire des séances de travail, de partage, de fichage de bouquins, on peut aller faire des petits voyages missionnaires. Moi, je vais tous les ans, je me fais au moins 2-3 jours de voyage missionnaire. Aller découvrir une paroisse, une communauté, aller faire une conférence à Londres, aller voir en Italie, j'ai vécu un peu en Italie, mais aller voir un peu comment est-ce qu'ils font aussi les Italiens, voilà, se dire, ou alors regarder des vidéos, dire qu'est-ce qui se passe à côté, comment ils font, et cette appétence de formation aussi, à arrêter de toujours demander que ce soit, qu'on soit là avec la béquille, à ouvrir le bec, à bah, donnez-nous tout, mais aller chercher, même par rapport à la Bible, à dire, mais en fait, comment Jésus faisait de la mission? Eh bien, ouvrons notre Bible et regardons. J'ai relu l'année dernière 3 fois, parce qu'une fois, ça ne suffisait pas, 3 fois les actes des apôtres en disant, qu'est-ce qui s'est passé dans la collaboration entre les disciples, l'Esprit-Saint et la mission? Comment ça se passe? Et 3 fois, j'ai relu, j'ai étudié, j'ai cherché, et cherché, et cherché encore. Soyons des chercheurs, étudions, travaillons, nous, laïcs, ne soyons pas des éternels ados. Et après, dans les ressources extérieures, il y a une chose qui est vraie, c'est que pour la mission, cela demande du travail. Du travail en collaboration, prêtre laïque, ça demande du temps. Comme disait aussi le Père Simon, bah, un peu de stratégie pour ordonner les choses, se dire, bah, typiquement, on est une oasis, on a l'eau, et puis les 29 enfants, bah, comment est-ce que l'eau, elle va arriver dans le robinet d'à côté, en fait, et qu'on a peut-être 100 mètres à faire de canalisation? Bah en fait, on ne va pas les jeter des seaux d'eau à la sortie de l'école, quoi, en disant « buvez donc ». Et donc, du coup, comment est-ce qu'on est intelligent aussi et que bah, ça demande un travail, une réflexion commune, où nous aussi, laïcs, hier, une table ronde qui disait bah, « les laïcs, on est dans le monde au quotidien », on peut dire quels sont les besoins de ceux qui nous entourent aussi dans le monde. Je pense que ce n'est pas seulement les laïcs qui peuvent dire ça, mais de vraiment travailler ensemble, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on entend comme question. Vraiment, j'ai lancé il y a un an et demi l'église à la maison chez moi, parce qu'en fait il y a des gens éloignés, ma banquière, mon esthéticienne, ma coiffeuse, mon boucher, un ami du quartier, voilà, qui m'ont donné cette idée de lancer l'église à la maison, un lieu spécifiquement pour eux, pour qu'ils puissent chercher Dieu et se poser la question de Dieu à partir de l'évangile et pour se poser la question de Jésus. Et c'est avec eux qu'on a construit les soirées du mardi soir chez moi dans mon canapé. C'est eux qui m'ont fait des retours, c'est eux qui m'ont dit on a réfléchi ensemble, et aujourd'hui c'est eux qui invitent tous ceux qui sont autour, leurs collègues de boulot, etc., à venir à l'église à la maison pour se poser la question de Dieu et de Jésus. J'ai une pote juive, elle invite tous ses potes juifs à venir maintenant. Mais ça demande aussi du temps de travail, de se poser, de prendre des journées tous ensemble en disant arrêtons d'avoir une pastorale du catalogue où on a, voilà, on a un catalogue à la fin de l'église qui est disposé là, mais bon, choisissez ce que vous voulez, et entrons dans une pastorale de la croissance c'est-à-dire comment partir des personnes les plus loin pour ensuite leur proposer la rencontre avec le Christ, mener tous les défis que chacun d'entre nous on a dans, nos, dans notre vie spirituelle, défis psychologiques, défis anthropologiques, défis spirituels, humains, modernes, d'action, tous ces défis-là qui sont liés à la conversion. Et puis aidons d'autres à mener tous ces défis aussi et à continuer ça. Soyons vraiment dans une pastorale de la croissance pour chacun d'entre nous.
Clara, quand on vous entend, on voit en vous, on l'a dit tout à l'heure, vous avez un cœur donné à la mission. On voit quand même un charisme chez vous. Bon, mais tout le monde n'est quand même pas n'a pas ce pouvoir de conviction, ce pouvoir d'aller vers. Et pourtant, la mission, elle est pour tous. Est-ce que chaque laïc peut prendre sa part quand même?
Ah bah oui.
Hein, oui, il n'y
enfin, a pas des professionnels. Enfin, et il faut surtout pas croire que nous, parce qu'on est là de ce côté, on serait des espèces de professionnels de la mission. En fait, on est aussi nuls que vous. Mais vraiment, non, mais sincèrement,
il n'y a pas
une personne qui est meilleure que l'autre. C'est parce qu'on est avec Jésus et qu'on reçoit tous ce même mandat. En fait, on a ce désir-là. Et en fait, d'envisager la vie chrétienne. Comme une vie missionnaire, c'est-à-dire ce que le Christ nous propose, mais en fait, ça transforme notre vie, d'abord, en fait, avant de transformer la vie des autres, et ça transformera notre paroisse demain. Je crois. Mais par contre, le rôle de nous prêtres et de moi curé, Clara disait hein, que parfois les laïcs donnent l'impression d'être des mineurs spirituellement, demandant la béquée, mais nous, parfois, on se prête à ce jeu-là. Comme prêtre, ben en fait, on est parce que ça nous gratifie, se dire ah, Monsieur l'abbé, vous pouvez venir rencontrer notre groupe ou faire ça, et on oublie que cette intention missionnaire, elle doit habiter chacun de nos enseignements. De je sais pas quand quelqu'un par exemple nous demande de l'accompagner. Moi, je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai accompagné les personnes pour les entretenir dans une espèce de confort, sans jamais les pousser à la mission. Ou en tout cas, les interroger sur mais qu'est-ce qui, dans ta vie chrétienne, où est-ce que tu vis cette mission-là ? Donc, nous aussi, dans cette réforme, enfin, ce désémissionnaire, on a changé notre manière d'être, nous, prêtres, dans l'organisation des structures paroissiales, les enseignements qu'on peut donner, la manière qu'on a d'accompagner, la collaboration prêtre-laïque. Voilà, c'est tout ça qui demande à être transformé aussi en nous. C'est pour ça que, en effet, d'aller chercher ailleurs, hier, il y avait cette conférence là du pasteur Christian Kuhn. C'était vraiment bon d'entendre une manière tout autre évangélique. Alors, en plus, l'évangélique venant de Suisse romande, c'était bon de l'entendre et de voir qu'est-ce qu'il avait mis en œuvre, lui, dans sa paroisse, dans son apostolat. C'est certain que c'est dérangeant et c'est nourrissant, c'est stimulant.
Ce qu'on est en train peut-être de se dire, Père Lionel, c'est que pour allumer le moteur, là, pour lancer le finalement, il faut peut-être sortir de l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale. C'est ça qu'on est en train de se dire ?
En tout cas, on est en train de se dire qu'il faut apprendre des choses nouvelles. Moi, j'entendais le... Je trouve que Clara nous secoue quand même, non ? Il y en a qui approuvent. Et ce que j'aime bien, c'est... comme vous disiez, chacun a ses talents, mais en fait, on doit tous apprendre. Et en fait, il y en a qui ont des idées, il y en a qui mettent en œuvre des trucs. On n'a qu'à reprendre si on n'a pas les idées ou si on n'a pas... Moi, j'ai envie d'aller lui dire, c'est quoi l'église à la maison ? Je vais prendre un rendez-vous.
Ah ben oui, on lui demande alors. Non, mais concrètement, moi, je pense que c'est peut-être le moment aussi de parler des initiatives concrètes. L'église à la maison, un petit mot.
Non, l'église à la maison...
Est-ce que tu dis la messe à la maison ?
Explique-nous
comment tu fais. Qu'est-ce que tu fais ?
Non, l'église à la maison, c'est très simple. C'est le mardi soir chez moi. C'est un lieu, c'est dans mon canapé, c'est l'église dans mon canapé. Donc, c'est offrir un temps justement pour toutes les personnes qui se posent la question de Dieu. C'est offrir un espace où se poser la question de Dieu. Donc, on a un dîner, on dîne ensemble et on a un échange humain pour apprendre à échanger en profondeur, mais juste à un niveau humain, pas spirituel. Et ensuite, on a un petit partage à partir de l'évangile. Voilà, donc je fais un petit contexte biblique pour, parce que c'est majoritairement des gens qui sont très loin. Donc en fait, hier, il y avait une table ronde sur Jésus, j'ai pas la ref. Bon, bah, globalement, c'est 80% des personnes qui viennent à l'église, à la maison. Jésus, j'ai pas la ref. Saint-Pierre, pardon, c'est qui déjà à pêcheur, ah oui, d'accord, ok. À le pape aussi, ah oui, d'accord. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Donc je fais un petit contexte en disant qui est l'auteur, les personnages, les mots de vocabulaire. Ça prend 10 minutes, c'est des petites règles. Et puis après, on a des petits tours, un petit tour de table. Un peu, c'est l'adaptation d'une lectio, mais pour personnes très éloignées. Donc, c'est vraiment le tout début pour se poser la question de Dieu et de Jésus et poser son regard sur Jésus. Et en fait, voilà, les gens viennent quand ils veulent. C'est le mardi soir. Voilà, il n'y a pas d'engagement. C'est un peu un pré-alpha, post-alpha, où les personnes qui vont en catéchuménat quittent le catéchuménat. Voilà, c'est vraiment les personnes vraiment éloignées. C'est... mes potes juifs qui disent « Yeshua, franchement, il est hyper impactant, j'aimerais bien en parler avec toi ». Et puis, bah, du coup, je dis bah, « Venez », et on réfléchit ensemble, et ils réfléchissent ensemble aussi, c'est beau de les voir réfléchir ensemble, voilà. Et aujourd'hui, je constate, ça fait du fruit, mais au-delà de moi, c'est vraiment, je les vois grandir et se poser des questions. Et l'église à la maison, c'est vraiment eux, ceux qui m'entouraient, qui m'ont donné cette idée-là. Ben en fait, j'ai plus de questions que de réponses et j'ai pas envie d'aller à l'église parce que j'ai l'impression qu'il y a que des gens qui ont des réponses. Ma banquière, ben en fait, j'ai pas envie de me poser les fesses sur la messe le dimanche matin, je comprends rien, je piffe rien. Et en plus, je m'emmerde, j'ai froid, il fait froid, c'est l'hiver. Je dis, mais qu'est-ce que tu voudrais? Elle me dit, ben, je préfère ton canapé et qu'on ouvre la Bible et qu'on réfléchisse. Je dis, ok, très bien, faisons ça. Voilà, donc c'est cette invitation-là, c'est avec eux que j'ai construit ça.
Donc pour répondre à ta question, dans le AP, il y a un aspect labo de recherche. Il y a forcément un peu de structure, un peu d'organisation, mais si on fait que ça, ça va pas. Il y a un aspect, inventons, essayons, expérimentons, donnons-nous le droit de faire des choses qui ratent, voyez. Ça montre qu'on a pris des risques, c'est bon. Et puis, cherchons des nouveaux chemins, apprenons ensemble, soyons créatifs. S'il n'y a pas ça, de fait, le truc, comme tu disais Simon, meurt à petit feu.
Voilà. Avec le AP, on a réfléchi, on cesse de réfléchir, je pense, sur ce comment accompagner la croissance de ceux qui nous sont confiés, quoi. Enfin, là, cette année, la responsable du catéchumène nous dit il y a, entre août et septembre, il y a 30 personnes qui sont venues frapper à la porte. Comment est-ce qu'on va les faire grandir, voilà. Et on s'est rendu compte que notre paroisse, petit à petit, elle s'était structurée avec des propositions pour permettre aux personnes de grandir un peu pas à pas avec des petites maisonnées, le parcours alpha, avec des catéchèses pour fortifier dans la foi, des lieux pour s'enraciner dans la prière, puis pour proposer de trouver le service qu'on pouvait rendre. Puis on s'est rendu compte qu'une fois que les gars étaient arrivés à servir, on n'avait plus rien. Comme si la paroisse, elle s'auto-alimentait. Enfin, le sommet du disciple, c'était de pouvoir s'engager comme catéchiste. Et on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout. En fait, il faut que il nous manque quelque chose. C'est justement de répondre à cet appel de Jésus, aller de toutes les nations. Il n'a pas dit aller de la paroisse de la Dalbad, faites des disciples. Il a dit aller de toutes les nations. Et donc, on se dit, il manque un échelon pour envoyer les personnes en dehors de la paroisse. Et ça, c'est vraiment au sein de l'EAP, en fait, qu'on en a pris conscience et qu'on forge un outil, une école, justement, pour former, aider ces chrétiens à quitter la paroisse. Se dire, il y a quelques-uns, j'espère, qui vont servir dans la paroisse, mais moi, mon désir, c'est qu'ils quittent la paroisse, qu'ils la quittent pour aller vers les nations, quoi. Alors, peut-être la nation, ça sera l'école qui est à côté. Enfin, ou bien, je pense à un gars qu'on a rencontré au parcours Alpha, enfin, en fait, qui est venu se confesser d'abord, mais il n'était pas chrétien, enfin, il n'était pas baptisé, donc qui a fait le parcours Alpha, qui a été baptisé, qui est rentré dans une petite fraternité et qui maintenant a trouvé sa place comme président de la conférence Saint-Vincent, mais pas chez nous. Enfin, voilà. Et moi, je me dis que nos paroisses, elles peuvent servir ça. Elles sont des lieux qui peuvent être ces bases de lancement. Voilà. Comme dit le pape François, de disciples missionnaires. Bon, on se demande parfois ce que c'est, Et parfois, je trouve qu'on peut un peu le rétrécir. Enfin, je parle comme curé, quoi. On a toujours le désir que les meilleurs y restent avec nous. Parce que notre paroisse, on veut qu'elle grandisse, qu'elle grossisse, qu'elle fasse du nombre. Mais je crois que c'est une vraie tentation. Voilà, c'est une vraie tentation que peut nous susurrer le malin. Et le Christ, il dit, mais non, allez de toutes les nations.
Et en même temps, il y a aussi la réalité des paroisses plus rurales et plus modestes et plus petites, où finalement, on est content de garder le meilleur, mais on est aussi content de garder les paroissiens que nous avons. En préparant, je me suis amusé à aller un peu sur Internet, alors j'ai passé du temps, mais essayer de voir en fait, concrètement les initiatives qui étaient organisées. On a parlé des fraternités, on a parlé des petits groupes de prières, les petits groupes des pères de famille, mais quand on a envie de faire une mission, souvent, on se met devant le parvis et puis on joue de la musique, on fait des messes de famille, on fait des apéros. Ça, vraiment, l'apéro après la messe, les repas partagés, tirés du sac, il y a toujours une nuance très importante dans l'église, mais la pastorale de la fourchette, quoi. Ça, c'est des choses qui marchent. Mais en même temps, il y a aussi ce risque de se dire « Ah, mais alors ça, on a déjà fait, ça ne marchera pas ». Et puis pire, il y a ça par contre, ça marche, on le fait comme ça et on reproduit d'année en année les événements en fait. Est-ce que ça, il n'y a pas un moment, un risque et comment on vient animer concrètement, comment on allume le moteur? C'est une question pour tous les trois.
Moi je dirais que le risque aujourd'hui, c'est que la paroisse, elle se rétrécisse sur le culte. Voilà. Comment est-ce qu'elle entre en contact avec la société? Comment est-ce qu'elle a un parvis? Donc, de fait, l'apéro est une forme de parvis, ça a lieu sur le parvis. Mais plus fondamentalement, quel est le besoin de la communauté humaine dans laquelle on se trouve? Comment on va le servir? Comment on va rejoindre les gens? Et comment on va apporter quelque chose d'utile? Et à ce moment-là, ça donne un espace de contact dans lequel va se nouer la fraternité, et dans lequel du coup on va rencontrer des gens. J'ai une expérience qui était assez forte, c'est que j'ai visité ce qu'on appelle à Toulon un tiers-lieu. Donc les tiers-lieux, c'est des lieux associatifs qui croisent plein de gens, qui font des activités souvent bénévoles, des transmissions de savoir, des rencontres. Et je me suis dit, j'ai eu un choc, parce que je me suis dit, c'est dingue, parce que c'est comme s'ils avaient construit le parvis de l'église sans avoir le culte. Et enfin, là où c'était un choc, c'est que je me disais, c'est comme si mon église, elle avait perdu tout son lien social. Autrefois, il y avait vachement d'œuvres, les patronages, et qu'il ne restait plus que le culte. Et du coup, la marche pour le gars qui est dehors et qui pour passer dans la messe, elle est vachement élevée. Où est-ce qu'il est le lieu où on se rencontre, où on prend du temps, où on parle, on se sert les uns les autres, et du coup, on se connaît, et de là, il va y avoir un pont. Et c'est ça, je pense, le défi d'aujourd'hui, c'est rebâtir ce réseau, sachant que l'Église, elle a toujours fait ça, c'est-à-dire que quand il n'y avait pas d'hôpitaux, elle a soigné les gens, quand il n'y avait pas d'école, elle a enseigné, et aujourd'hui, il faut qu'elle re-regarde où est-ce qu'elle manque dans la société, peut-être c'est la solitude, peut-être aussi c'est l'école, parce qu'on a quelque chose à apporter, peut-être c'est le patronage, la rencontre, enfin, pour les jeunes, pour l'éducation, c'est un énorme défi. Il faut du coup que chaque Église, elle choisisse un lieu en écoutant l'Esprit Saint, en regardant ses forces, en regardant ce qu'elle a, et qu'après elle entre en contact avec la société. Et là, de fait, elle a un espace d'évangélisation, parce que en fait, ça prend du temps. On a besoin de cheminer avec les gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu comme elle dit Clara, faut qu'on parle, faut qu'on se rencontre, avant que on arrive à rejoindre l'Église, quoi. On arrive à rejoindre la messe. Voilà. Du coup, je pense qu'il y a tout un chemin à refaire.
Je vous propose que dans cette dernière partie de table ronde, on fasse un peu lecture des questions, parce qu'il y a plein de thèmes et puis il y a beaucoup de questions. J'en lis une. Pourquoi les catholiques ne parlent jamais de leur foi dans le monde professionnel, laïque, en entreprise? C'est quoi? On a parlé de l'église à la maison, mais l'église en entreprise. Est-ce que là, il y a un levier ou...
Je pense que je peux du coup répondre, parce que le métier de mes voisins de gauche et de droite, c'est assez explicite.
Avant que tu répondes, il y a un sketch extraordinaire de Gad Elmaleh,
où on voit comment le musulman se positionne, comment le juif se positionne. Et le catho, il est hyper, hyper gêné et tout. Il n'ose pas dire et tout. C'est vachement significatif, non?
Oui. Après, la réalité... Non, mais en vrai, je suis restauratrice de peinture à mi-temps quasiment dans les églises. Et donc, j'ai le quotidien des églises, mais en étant au quotidien avec des non-croyants dans les églises. Donc, en gros, on bosse. Voilà, donc on a les messes, les enterrements, l'accueil paroissial. Donc, avec tout mon groupe de collègues, on rit beaucoup. Et on a aussi travaillé dans des synagogues. Et on voit quand même un peu la diff. Il y a quand même un peu un truc où l'accueil dans les églises, on n'est pas très ouvert à la différence. Souvent, on se fait engueuler en disant « Les femmes dans la sacristie, qu'est-ce que vous faites là ? On va aux toilettes, pardon. On va accéder à l'eau, on va remplir nos seaux. Vous avez des tatouages, c'est vraiment pas bien les tatouages. » Premier jour dans une église l'année dernière, j'ai dit « Bon, bah super, c'est génial, voilà. » Et du coup, en fait, il y a un vrai truc où je pense dans notre... vraiment dans notre considération, c'est laïque aussi, on avait la discussion hier avec certains là à Toulouse, si nous laïcs on n'est pas capable d'être amis en fait avec des gens qui n'ont pas la foi profondément, mais en tant que chrétiens aussi, de pouvoir échanger ensemble et d'assumer, dire moi je parle, enfin dire là mes collègues ils savent que je suis là, je sais que dans 3 jours ils auront regardé tous les trucs qui seront en ligne et ils me feront un super débrief. Et en fait, on rigole, on se marre, on en parle, et c'est ok en fait. Enfin, dire, ça fait partie de ma vie. Comme je me préoccupe de savoir comment vont leurs enfants, ils se préoccupent de dire, alors tes 8 congrès en France en ce moment, ils en sont où ? Il y a du monde. Voilà. Et j'ai eu des collègues hier qui m'ont envoyé un texto, bon courage pour les congrès. Ben voilà. Et en fait, ça fait partie de la vie. Et donc, dans notre vie professionnelle. Je pense qu'il y a quelque chose, nous, en tant que laïcs, à assumer, comme dit aussi Gad Elmaleh et Smar. Mais en fait, c'est simple d'être chrétien, quoi. En fait, et plus aussi, nous, on va se rigidifier, en fait, intérieurement, à vouloir défendre notre petit château fort intérieur, nord de catholique, et bien, en fait, on va vouloir se défendre du monde extérieur, plus, en fait, on ne va pas être dans une rencontre. Jésus, ce qui est extraordinaire dans sa manière de faire, c'est qu'il est vraiment ami des hommes, il va rencontrer. Et dans cette optique-là, après, il n'y a plus rien d'autre à défendre. En fait, on est là à partager quelque chose et c'est hyper simple. Donc, dans le milieu professionnel, c'est ça. Et je voudrais... Il y a un petit truc aussi en tant que laïque où je pense qu'il peut y avoir une tension quand on n'est pas full-time pour la mission. Je me permets quand même ce truc parce qu'il peut y avoir une tension. Ben, on a nos engagements, il faut faire le ménage de la paroisse, il faut tenir ça, il faut faire ça, on a notre boulot, on a les enfants. Il y a le tunnel du 18-20 le soir, du lundi au vendredi, avec la sortie de l'école, le dîner, les devoirs, machin. Dire c'est bon. Et puis en plus de ça, 20h15, il faut nous qu'on se nourrisse, il faut qu'on soit en maisonnée, puis il faut aller en mission, voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi à, pour nous laïcs, réunifier cette chose, c'est que c'est pas quelque chose en plus. C'est que au boulot, je peux me nourrir dans ma vie spi et je peux être missionnaire. Je peux me nourrir avec des personnes éloignées de l'église sur la question de Dieu. Je peux emmener des gens à l'église où je vais aller moi me ressourcer, mais permettre à d'autres d'accéder à l'oasis. Et essayer de combiner ces choses-là aussi pour que nous, on soit plus apaisés, sans avoir ces tiraillements infinis. Voilà.
Merci Clara de remuer là, comme vous l'avez
dit. Je pense aussi que c'est culturel, c'est-à-dire que dans la France, on a une tradition de la laïcité. La laïcité, pour certains, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu, ce qui n'est pas du tout la définition. Hein. Mais du coup, on est héritier de ça, on est toujours un peu gêné. Du coup, je pense qu'il faut qu'on apprenne à se redécoincer et à être cool. Si vous regardez Gad Elmaleh, c'est incroyable comme il arrive à parler de Dieu. Bon, il ne fait pas du catéchisme hein, quand il est invité sur des plateaux de télé, mais il décoince. Il décoince la discussion et il met le truc sur la table. Du coup, il faut qu'on apprenne, qu'on pratique.
Et pour ça, en vrai, moi, je suis catholique, hein, mais honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps et je passe beaucoup de temps avec les évangéliques et les protestants et ça me détend. Alors, je vous conseille hein, tous, hein, aller regarder, faire des trucs, aller faire de la mission avec eux. Franchement, c'est hyper détendant, c'est sympa.
Et des fois, on est choqué que les non-croyants disent des choses qui nous semblent énormes ou absurdes ou qui ne se comportent pas bien. Comment on peut attendre qu'un non-croyant ait un comportement chrétien ? C'est normal, non ? Qu'ils aient un comportement non-chrétien et qu'ils pensent d'une façon non-chrétienne. dont on n'a pas à être choqué. Voyez, c'est incroyable comme Jésus va au contact des pécheurs. Il y avait dans le monde juif une règle que si jamais tu dois pas toucher les pécheurs, sinon ça peut te contaminer. Et lui, il renverse le truc en disant le problème, il n'est pas dans le contact, il est dans ce qu'il y a dans ton cœur. Et du coup, il va avec eux. Franchement, là, on a à apprendre. Hein. Voilà.
Je pense à Antoine, c'est un gars qui est catéchumène et qui nous disait, maintenant il est baptisé d'ailleurs, il est dans l'église, il disait, mais vous savez que moi dans mon boulot, j'en parle tout le temps de Jésus, et je me rends compte que les gens, en fait, ils adorent. En fait, ils viennent à ma table pour le repas quoi, de midi, parce qu'ils disent, c'est super que tu nous parles de ça, mais en fait, ils ne savent pas comment rentrer, ils ne savent pas comment pousser la porte. Bah, Antoine, en fait, c'est la porte de l'église. Moi, je suis certain que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, Antoine, hyper simplement, il va être celui qui va permettre à 1, 2, 3, 4, 5 personnes de rencontrer le Christ et donc de demander le baptême, parce que lui, il a fait le chemin. Et c'est intéressant, parce que moi, je n'y suis pas en entreprise. Lui, il y est. Il travaille chez Siemens, il est il fait de la manutention. Et c'est lui qui transforme aussi notre manière de les accueillir. Ben, puisque moi, je ne suis pas en entreprise, lui, il y est, il parle de Jésus, et il est cette porte, ce pont qui permet ce va-et-vient. Quoi.
Je propose de lire une autre question. Gardez le micro, parce que je pense que celle-ci, elle est pour vous. Pour les nouveaux paroissiens, c'est souvent difficile d'être intégré et finalement accueilli au sein d'une paroisse. Comment faire mieux pour accueillir les nouveaux de l'Église?
Alors, dans les nouveaux, parce que parfois on se dit, nous par exemple, on fait pendant tout le mois de septembre des petits événements pour accueillir les nouveaux, mais qui sont déjà catholiques, mais qui arrivent à Toulouse. Et bien souvent, vous savez, ils arrivent à Toulouse, ils tentent une paroisse, deux paroisses, et si jamais on ne les a pas accueillis, ils peuvent ne plus pratiquer. Donc il y a un enjeu pour les accueillir. Mais ça, en fait, on arrive à le faire autour d'apéro, de dîner, alors, de choses construites hein, pour vraiment viser à l'accueil. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Le véritable enjeu, c'est d'accueillir ceux qui frappent un petit peu à la porte, les parents des enfants du catéchisme, ceux qui ont demandé le baptême pour un enfant, les catéchumènes qu'on a accompagnés pendant 2 ans. Nous, on réfléchit vraiment et on essaie de proposer du parrainage, quoi. Enfin, qu'une personne s'occupe d'une personne pour l'accompagner. Alors ça, c'est un défi énorme parce que ça demande de transformer complètement la culture paroissiale. En fait, c'est pas en faisant des apéros, en faisant des événements qu'on transforme ça. C'est une transformation du cœur. Hein. C'est vraiment, parce que je crois que c'est Lionel qui disait ça, la parole de Jésus à Bartimée, en fait, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire que je m'intéresse à toi pour t'accueillir. En fait, t'accueillir, c'est pas vouloir te proposer quelque chose. T'accueillir, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et ça se joue en 1-1-1. C'est pas une communauté tout entière qui... si, c'est une communauté tout entière qui accueille, mais dans nos communautés, il peut y avoir beaucoup d'anonymat. Donc, c'est bon que chacun se sentent responsables de l'accueil d'une personne. Mais ce que Clara disait pour l'église à la maison, quoi. Responsable peut-être de 5-6 personnes.
Moi, je trouve que cette question, c'est un scandale de ne pas accueillir les gens. C'est un scandale. C'est un contre-témoignage. Dans ma paroisse, il y avait une fille qui était revenue à la foi, elle était dans l'EAP. Elle témoignait qu'elle est venue dans mon église. Elle m'a crucifié quand elle a dit ça. Elle est venue 6 mois sans qu'on lui parle. 6 mois à la messe du dimanche sans interagir avec quelqu'un. Pourtant, je considérais que ma paroisse était accueillante. Du coup, elle témoignait de ça et on se dit, c'est pas possible, quoi. Donc elle est restée. Mais combien il y en a qui ne sont pas restés? Et souvent, les gens, quand ils restent dans une paroisse, comme tu dis, la première raison, c'est juste qu'ils disent, on m'a accueilli. On est venu me voir. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement 2 enjeux. Changer la culture. Mais du coup, ça veut dire faire plein de petites choses. Donc ça peut être l'apéro. Ça peut être, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la première minute où on sort de la messe? C'est avec les gens qui sont seuls et qui sont nouveaux, qu'est-ce qu'ils font? À la fin, ils s'en vont. Forcément, ils n'ont personne à qui parler. Donc vous avez 1 minute pour les retenir, peut-être 2. Après, c'est trop tard, ils sont partis. Donc l'idée, c'est de sacrifier les 2 premières minutes de sortie de messe, ne pas parler à ses amis. Ce n'est pas un grand sacrifice, non. Ils vont rester, de toute façon, ils seront là après. Pour aller parler à des gens nouveaux, On peut aussi se saluer au début de messe, par exemple, ou dire, chacun va dire bonjour à quelqu'un qu'il ne connaît pas, ou j'en sais rien. Il faut qu'on trouve plein de trucs, mais on ne peut pas rester dans des églises où... franchement, la marque différenciante du christianisme, normalement, c'est la fraternité, c'est la charité. Donc ça doit être... ça ne peut pas être plus chaleureux d'aller au club de foot qu'à l'église, ce n'est pas normal. Enfin, voilà.
Allez, je continue encore les questions. Celle-ci est pertinente. On en a parlé, mais c'est, je pense bien d'y revenir. Si j'ai le feu de la mission, mais que mon curé est un peu prudent et reste tourné vers l'intérieur, faut-il se rapprocher plus missionnaire ?
Énorme question.
Bah oui. Ah. Oui, bah c'est sûr.
Ah.
Enfin, mais non, mais parce que on n'est pas.
Pas le dire.
Ben, non, mais c'est une évidence que quelqu'un qui a le feu de la mission. Ce que disait Lionel tout à l'heure, les paroisses, elles peuvent avoir un peu des modèles différents. Et nous, curés, on a des modèles différents, plus cultuels, plus missionnaires, plus je sais pas, catéchétiques. Moi, j'aimerais que tous soient très missionnaires. Mais, et donc, s'il y en a qui ont le feu missionnaire et que ce feu risque de s'éteindre s'ils restent là où ils sont, ben, qu'ils aillent ailleurs. Peut-être que s'ils restent là où ils sont, le feu ne s'éteindra pas et que leur curé leur dira « mais tu peux faire quelque chose quand même ». Moi, je vais pas le porter parce que c'est pas... Moi, je suis fan de liturgie, par exemple. Je vais pas le porter, mais la plupart des curés sont heureux qu'un laïc puisse exprimer assez librement ce feu qu'il a et peut-être qu'il va justement déployer quelque chose sans la espèce de férule du curé, quoi. Si le curé lui dit ben, « vas-y, quoi ». Vas-y. Donc, j'ai commencé par dire oui, il faut aller ailleurs, mais si vraiment vous avez un attachement, c'est votre quartier, parce que vos potes ils sont là, parce que l'école des enfants à côté, que vous connaissez, vous dites, mais en fait, non, moi, c'est quand même le bon terrain, même si les curés, ça passe. Hein, les paroisses, ça demeure, mais les curés, ça passe. Les paroissiens, ça demeure pas mal aussi. Donc, moi, je me dis que les deux sont possibles, il faut écouter ce que le Seigneur nous demande, quoi. Enfin...
Vous êtes d'accord avec ça, Clara ?
Et non, mais c'est hyper intéressant, parce que je suis dans mon tiercart, comme ils disent chez moi, en fait, honnêtement, dans mon quartier, c'était un peu compliqué, pas forcément une dynamique de travail, mais je sentais, et on était assez nombreux, à sentir que c'était le territoire et que Dieu nous appelait dans ce territoire-là. Et donc, en fait, il faut... En tant que laïque aussi, bien jauger de quoi on est capable aussi à dire, en fait, j'ai besoin d'être d'abord avec des curés sur taquet qui vont me former, qui vont m'envoyer, qui vont m'accompagner dans mes premiers temps de mission, etc. Et puis après, en fait, il y a aussi un appel à aller des endroits où, en fait, c'est un peu le désert aussi paroissial, quoi. Et c'est OK aussi, c'est un autre appel. Et nous, dans le quartier, en fait, on n'a pas forcément une collaboration active avec les paroisses du doyenné. Et en même temps, on est en lien. Donc, il y a un tiers lieu dans lequel moi, je suis du coup restauratrice de peinture et j'ai un atelier. Ça me faisait marrer. Vraiment, on a la cour des miracles. On a vraiment tout le quartier qui débarque dans ce tiers lieu. Et en fait, oui, on est en lien avec la paroisse, mais il n'y a pas un truc institutionnalisé, quoi. Il y a l'église à la maison. L'église à la maison, j'avais proposé au curé. Non, pas pour la paroisse, j'ai pas envie qu'on le lance officiellement, etc. Je dis, mais, et sinon, si je te préviens que ça se lance chez moi, oui, très bien, je t'enverrai peut-être des gens. Super. Et en fait, en gros, l'église à la maison, on est en lien, mais en même temps, on a des initiatives territoriales où on échange ensemble, on va prendre des cafés avec les padrés du doyenné, où on échange, il y a un patronage. Et donc, du coup, ça crée aussi tout un réseau qui est plus souple que nous, quelquefois, la rigidité qu'on a, encore une fois, les laïcs, on a besoin, comme du Vatican au Plouvre, le curé au Plouvre, on a besoin du tampon, où c'est absolument institutionnalisé, d'accord, ça doit rentrer dans les trucs. Et aussi, nous, on a besoin de temps pour changer dans notre conversion missionnaire. Et nos curés aussi, ils ont besoin de temps pour changer dans leur conversion missionnaire. Et c'est très ancré, en fait, cette considération de la paroisse, pas forcément missionnaire, ça prend du temps pour eux. C'est une énorme remise en question des structures, du travail, de la manière de voir l'ensemble du quotidien. Et pourtant, je suis vraiment très impatiente et souvent en colère. mais j'ai envie de dire, apprenons-nous en laïque à être patients, intelligents et fins stratèges aussi avec nos paroisses, avec nos curés, pour qu'il y ait une transformation profonde, durable, missionnaire de toutes nos paroisses et tous nos territoires. Et après, mettons-nous en réseau. C'est-à-dire qu'en gros, moi, souvent, j'appelle des potes missionnaires en disant « on va faire ça sur le quartier, on a tel truc ». Voilà, ben, sur la paroisse, on a un peu de mal, et ben, on y va. Puis on se file des coups de main parfois, etc. On se donne des bons tips, où on fait intervenir des gens sur la paroisse pour changer un peu les mentalités. Bon, ben voilà, ça bouge un peu, quoi.
Moi, je dirais, il ne faut pas rester seul. Et si tu as le feu missionnaire et tout, il ne faut pas laisser s'éteindre ça, c'est tellement rare. On a tellement besoin dans l'église. Mais il ne faut pas rester seul. Moi, je conseillerais d'avoir une discussion cash avec le curé en disant « j'ai ça dans mon cœur, je sens que je voudrais faire des trucs de mission, je ne vous sens pas trop à l'aise, est-ce que vous préférez que je fasse ici ou peut-être que j'aille ailleurs ?» Enfin voilà, au moins, le truc il est posé. Hein. Et si le curé il dit « non, mais dans ma paroisse, on va trouver, voilà, bah ok, et s'il dit « bah c'est vrai qu'ici, on ne le fait pas trop », bon bah voilà.
Après, parfois, quand quelqu'un dit « moi j'ai le feu missionnaire », nous comme curé, souvent on dit « oui, mais moi j'ai besoin de catéchiste hein. ». Catéchiste et personne pour le ménage. Donc nous aussi, on a à se convertir parce qu'on peut éteindre le feu, quoi, en cherchant à remplir les cases de la vie paroissiale, quoi. Et c'est pour ça que si la personne, je suis d'accord, de ne pas rester seule, quoi. Si jamais elle sent que le curé, il n'est pas réceptif, ce que dit Jésus, hein, si on ne vous reçoit pas, prenez vos sandales, vous les essuyez, vous allez au village suivant. C'est pas vous arrêter, vous allez dans le village suivant. C'est-à-dire, le feu, il va prendre. Et d'ailleurs, en embrasant le village suivant, a priori, vu que c'était le suivant, bah, le feu, ça s'arrête pas à la limite du canton, quoi. Voilà, ça prend. Donc,
Et je pense qu'en tant que laïque, quand je vous entends, Père Simon, il y a une chose qui est fondamentale et que et les curés, les prêtres doivent comprendre, et les laïcs, c'est vraiment le discernement d'un charisme missionnaire. Nous, les laïcs, quelquefois, on considère notre service dans l'Église comme on va cocher la case de justement, je réponds aux besoins. Il y a besoin de catéchiste, alors je vais aller là. Il y a besoin de quelqu'un pour le ménage ou les fleurs, ou machin, je vais aller là. Il y a besoin pour chanter, j'ai la voix du Père Fouras, mais je vais mettre un peu à chanter parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui chante. Et pas la manière dont Dieu veut se révéler au monde au travers de moi et les préoccupations. Honnêtement, moi, j'ai mis très longtemps à me rendre compte et à grandir. C'est quand ça a grandi doucement, mais sûrement, de cette préoccupation du peuple, d'avoir vraiment quelque chose de la conduite d'un peuple dans la mission, dans l'évangélisation de ceux qui n'étaient pas encore là. C'était compliqué pour moi de dire à mon curé, mais en fait, moi, je suis préoccupée de ceux qui ne sont pas là, mais et de ce peuple-là qui n'est pas encore là. Et j'ai envie de grandir là-dedans et j'ai envie de servir la paroisse dans ces personnes-là et d'être conduite. Et parce qu'en fait, on considère que c'est le ministère du prêtre, c'est à eux de faire, et que nous, on doit juste remplir les cases. Et vraiment, à nous de laisser aussi, en tant que laïcs, résonner le cri que Dieu met en nous, la préoccupation que Dieu met en nous. Si c'est, comme certaines paroissiennes du Père Simon, plutôt de s'occuper des femmes, et de les faire grandir et d'évangéliser les femmes, allez-y. Si c'est, en fait, évangéliser plutôt les enfants, et du coup, travailler sur vraiment la pastorale de l'évangélisation des 0-18 ans, allons-y. Et plutôt que de répondre juste à une cochée des cases, discernons, nous aussi, notre charisme missionnaire, là où le Seigneur nous appelle, et formons-nous et demandons justement aux prêtres et aux curés, comment avoir les moyens pour grandir et exercer ce charisme missionnaire.
Une question encore. À montrer des initiatives missionnaires à côté de l'Église, à monter, pardon, des initiatives missionnaires à côté de l'Église, n'y a-t-il pas un risque de progressivement s'éloigner de l'Église, de s'en déconnecter ? Cette question nous parvient là, à chaud.
Oui, c'est la question des œuvres sociales. L'Église a porté beaucoup d'œuvres sociales. Peut-être qu'il y a eu un courant dans les années 60 qui a fait que... Mais c'est un défaut de théologie. C'est-à-dire qu'on a dit il faut qu'on devienne invisible. Où est-ce que tu as écrit, où est-ce que tu as lu dans l'Évangile qu'il fallait être invisible ? C'est marqué, vous êtes la lumière du monde. Enfin, voilà. Donc il y a eu une torsion du truc. Et du coup, les œuvres sociales, elles ont pu porter leurs fruits. Donc je pense qu'on ne doit pas craindre ça si on garde dans notre cœur le désir de mission. Après, on a quand même la laïcité qui nous pèse et qui nous tord la tête, quand on dit aux apôtres, vous devez vous taire, vous ne devez pas annoncer le nom de Jésus, ils répondent, à ça, nous ne pouvons pas. Voyez, donc, il y a à tenir, de fait. Il y a un risque, hein, mais en fait, moi, je dirais, la charité est la route de la mission. Il n'y a pas d'autre route. C'est comme ça que l'Église a fait, hein, a fait dans son histoire. Et parce que, si vous voulez, le témoignage explicite ne vient que corroborer le témoignage de vie. C'est-à-dire, c'est parce qu'on aime les gens que notre témoignage explicite y porte. Et, enfin, et parfois, on a neutralisé le témoignage explicite en disant qu'il faut aimer les gens et basta. Ben non, il faut faire les deux, mais il faut faire les deux. Voilà, tenir les deux.
Attention, je pense que elle est importante. Ce n'est pas une question, mais c'est juste une remarque. Attention de ne pas nous culpabiliser au lieu de nous motiver. Il faut l'entendre, ça. Il faut l'entendre. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Bah, c'est sûr que si on a une parole qui secoue trop, on est secoué, puis après on dit « putain, j'arriverai à rien ». Non, 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 c'est sûr. Je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup. Je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup. Et deuxièmement, je pense qu'il faut commencer par des petits pas. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a rien. On ne va pas d'un coup construire un centre missionnaire avec 1000 places. Enfin, voilà, près de chez nous, il y a quelque chose à faire et ça nous donne déjà la joie. Du coup, il y a toujours un pas possible. Faut pas, surtout pas que vous ressortiez si vous ressortez déprimé de la table ronde, on aura vraiment... On ira dans les flammes du purgatoire. Parce qu'on aura fait notre travail à l'inverse.
Non, et puis surtout, il y a une chose, c'est que généralement, je l'ai pas trop partagé, mais il y a beaucoup j'ai fait beaucoup d'erreurs et il y a beaucoup d'échecs. Et je pense que Père Lionel, Père Simon aussi ont tenté des choses qui n'ont pas marché. Et justement, c'est vraiment de se dire, allons-y et frottons-nous déjà à la mission. Là où on en est, et comme la croissance spirituelle, en fait, à des moments, en fait, on se pose la question de Dieu, on prend 5 minutes pour se poser la question de Dieu. Puis, par exemple, comme la vie de prière personnelle, on commence par ça. Et en fait, l'essentiel, c'est d'être en mouvement. L'essentiel, il n'y a pas de truc où on est arrivé, etc. Enfin, dire, on est en perpétuelle conversion, croissance. Et c'est ok d'avoir des up and down par rapport à la mission, c'est ok de ne pas y arriver, c'est ok, enfin Jésus, il est ok avec nous pour ça, donc ne nous mettons pas une pression que Jésus ne nous met pas. En revanche, un vrai truc, c'est que Jésus nous rend vraiment capables, est avec nous, et que nous ne sommes pas seuls, on doit redécouvrir vraiment ce sens de la communauté et du mouvement en communauté, et développer vraiment tous ces petits niveaux, à mon petit niveau perso, à 2, à 3, à 5, à 10, en communauté paroissiale, en diocèse, et petit à petit nous mettre tous en mouvement. L'essentiel, c'est d'avancer et de se mettre en mouvement avec déjà des toutes petites choses, on fait des grandes choses.
Je pense à une parole, je crois que Jésus dit à Gabrielle Bossis, qui est une femme qui est dans le milieu de l'art, il dit « prononce mon nom dans la conversation. Dis mon nom, Jésus. » Et donc c'est marrant parce que c'est... Enfin, je me dis, même dire le nom de Jésus dans la conversation est un acte missionnaire. Vous voyez ? Si on fait ça, on fait avancer le royaume. Donc les pas sont petits. Chacun de nous... Et quand on fait ça, c'est un grand pas, d'une certaine manière. Voilà.
On arrive à la fin de cette table ronde, les petits pas, c'est ça, peut-être un dernier mot, vous qui nous accueillez dans cette église, c'est évidemment un contexte de crise de la foi, hein, et puis en même temps c'est aussi une réponse que d'être dans la mission, par petits pas. Vous...
Bah, en tout cas c'est la manière dont Jésus a fait avec les 12, hein. Il les a appelés, ils ont fait des petits pas à sa suite, pendant 3 ans, avant d'être envoyé, quoi. Il a essayé des choses, en fait, la vie chrétienne, c'est des petits pas. Et c'est surtout un pas après l'autre, quoi. Et moi, comme curé de paroisse, je vois bien qu'on avance toujours à petits pas. Mais dans c'est la direction que Jésus nous donne, enfin, aller de toutes les de la nation faite des disciples. Et du coup, cette intention-là, ce désir-là, il avance pas à pas. Avec d'ailleurs moi, avec les chrétiens qui sont qui habitent ces paroisses, quoi. Moi, je rends grâce à Dieu pour eux. Hein.
Est-ce que je peux dire une dernière chose ?
Ah oui.
Moi, je dis, c'est incroyable le changement qu'il y a eu en 20 ans. Il y a 20 ans, on n'aurait pas été dans cette église en train de parler de la mission. Du coup, on n'imagine pas comment ça peut être dans 20 ans. C'est un immense signe d'espérance pour nous tous, ce qu'on a fait. Du coup, franchement, voilà.
Oui, on peut vraiment les applaudir. Merci beaucoup pour cet échange de qualité.
Non, mais parce qu'en fait, on peut commencer, par exemple, notre petit pas, il peut être maintenant, tout de suite. On a parlé de l'accueil, on a parlé de faire un petit pas. Ben, moi, j'ai envie de vous proposer, avant de quitter la table ronde, de vous tourner vers un voisin que vous ne connaissez pas, d'échanger vos prénoms, de dire peut-être une chose qui vous a impacté dans cette table ronde. Et puis, ben, le petit pas auquel vous pensez, ça peut être demain, dire que je suis chrétien au boulot, ça peut être parler à mon curé cette semaine, ça peut être quelque chose. Le petit pas là, de cette semaine que vous avez envie de faire, prier sur l'enfant prodigue. Enfin, ça, voilà, un truc qui vous met en mouvement maintenant, parce que c'est ça qui fait avancer toute l'Église. Donc merci mille fois, vraiment, à vous.
Merci à tous. Cette table ronde, elle est à retrouver en podcast sur le site de Radio Présence et puis sur les supports du Congrès Mission. Merci.